4. Je pense que c'est une bonne chose et que la planète compte un salaud de moins.
Sa saillie provocante ne me fit pas rire. Réponds-moi sérieusement, s'il te plaît.
On ne devait pas enquêter sur Vinca. Tu joues à quoi, là?
Je te ferai remonter toutes mes infos, c'est promis. La piste du cambriolage qui a mal tourné, tu y crois?
Plus depuis qu'on a retrouvé sa collection de montres.
Décidément, Pianelli était bien informé. Le commissaire De Bruyne avait dû lui refiler l'info.
Quoi alors?
Pour moi, il s'agit d'un règlement de compte.
Biancardini représentait à lui seul le cancer qui mine la Côte d'Azur. L'affairisme, la corruption politique, les relations troubles avec la mafia.
Je montai au créneau pour défendre Francis.
Là, tu dérailles. Les liens de Biancardini avec la mafia calabraise, c'est de l'intox. Même le procureur De Bruyne s'y est cassé les dents.
Justement, je connaissais bien Yvan De Bruyne et j'ai eu accès à certains de ses dossiers.
J'ai toujours adoré ça. Les juges qui refilent leurs infos aux journalistes. C'est beau le secret de l'instruction.
C'est un autre débat, me coupa-t-il.
Mais ce que je peux te dire, c'est que Francis était mouillé jusqu'au cou. Tu sais comment les mecs de la mafia calabraise, la Ndrangheta, le surnommaient?
Whirlpool.
Parce que c'était lui qui supervisait la grande lessiveuse du blanchiment d'argent.
Si De Bruyne avait eu des preuves solides, Francis aurait été condamné.
Si c'était si simple, soupira-t-il. En tout cas, j'ai vu des relevés de comptes douteux, du fric qui repartait aux États-Unis,
là justement où cherche à s'implanter la Ndrangheta depuis des années.
J'aiguillai la conversation sur un autre rail. Maxime m'a dit que tu le harcelais depuis qu'il avait annoncé son intention de faire de la politique.
Pourquoi tu ressors tous ces vieux dossiers sur son père?
Tu sais très bien que Maxime est clean et qu'on n'est pas comptable de l'action de ses parents.
Ça serait trop facile, rétorqua le journaliste.
Avec quel argent crois-tu que Maxime a fondé sa belle petite entreprise écologique et son incubateur de start-up?
Avec quel fric penses-tu qu'il va financer sa campagne?
Avec l'argent sale que cette crapule de Francis a gagné dans les années 1980.
Le ver est dans le fruit dès le début, mon pote.
Donc, Maxime n'a plus le droit de rien faire.
Fais pas semblant de ne pas comprendre, l'artiste.
C'est ce que j'ai jamais aimé chez les types comme toi, Stéphane. Cette intransigeance, ce côté procureur et donneur de leçons.
Le comité de salut public version Robespierre.
C'est ce que j'ai jamais aimé chez les types comme toi, Thomas. Leur capacité à oublier ce qui les dérange. Leur faculté à ne jamais se croire coupable de rien.
Pianelli adoptait un ton de plus en plus virulent. Notre échange dessinait une frontière délimitant deux conceptions du monde que je pensais irréconciliables. J'aurais pu lui répondre d'aller se faire foutre. Mais j'avais besoin de lui. Je battis donc en retraite. On reparlera de ça une autre fois.
Je ne comprends pas pourquoi tu défends Francis. Parce que je le connaissais mieux que toi.
En attendant, si tu veux en savoir plus sur sa mort, je peux te refiler un tuyau.
T'as vraiment le chic pour retourner les situations.
Tu connais une journaliste de l'Obs, Angélique Guibal?
Non, ça ne dit rien.
Apparemment, elle a eu accès au rapport de police. D'après ce que j'ai lu, Francis s'est traîné dans une mare de sang et a essayé d'écrire le nom de son meurtrier sur la paroi de la baie vitrée.
Ah ouais, j'ai lu cet article. Des conneries de journaux parisiens.
Bien sûr, à l'heure des fake news, heureusement qu'il reste Nice Matin pour redorer l'honneur de la profession.
Tu rigoles, mais c'est pas complètement faux.
Tu pourrais pas appeler Angélique Guibal pour glaner quelques infos supplémentaires?
Tu crois qu'on se refile des tuyaux comme ça, entre journalistes? T'es ami avec tous les écrivains de la place de Paris, toi?
Mais que ce type pouvait être énervant par moments. À bout d'arguments, je tentai une manœuvre grossière.
Si t'es vraiment plus fort que les journalistes parisiens, montre-le-moi, Stéphane. Essaie d'obtenir le rapport de police.
Le piège est un peu gros. Tu crois que tu vas m'avoir avec ça?
C'est bien ce que je pensais. T'as que de la bouche. Je savais pas que l'OM avait peur du PSG. Avec des supporters comme toi, on est mal barré.
Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir.
Il laissa passer quelques secondes, puis accepta que mon piège délectable se referme sur lui.
Bien sûr qu'on est plus fort que les Parisiens, s'énerva-t-il. Je vais te le ramener, ton putain de rapport.
Nous, on n'a pas l'argent du Qatar, mais on est plus futés.
La discussion se poursuivit avec cette sorte de confusion agréable dans laquelle surgirent les noms de Bernard Tapie et de Raymond Goethals. Elle se termina par ce qui, au-delà de nos différences, nous rassemblerait toujours. En 1993, l'OM avait rapporté à ses supporters la seule vraie Coupe d'Europe, celle que personne ne pourrait jamais nous enlever. 5. Je me levai pour prendre un café dans le distributeur situé au fond de la pièce. Une petite porte de service permettait d'aller se dégourdir les jambes dans la cour. C'est ce que je fis, et une fois dehors, je poussai ma promenade jusqu'aux bâtiments historiques, la salle de classe d'inspiration gothique en briques rouges. Par une sorte de dérogation spéciale, le club théâtre avait toujours eu ses locaux dans l'aile la plus prestigieuse du lycée. Alors que j'arrivais devant l'entrée latérale, je croisai quelques élèves qui descendaient les marches en chahutant. Il était 18h. Le soleil commençait à décliner et le cours venait de se terminer. J'empruntai l'escalier qui menait à un petit amphithéâtre d'où s'élevaient des notes boisées et fumées de cèdre et de santal. L'arène était vide. Tout autour, dans des cadres, des photos en noir et blanc, les mêmes depuis 25 ans. Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, Maria Cassarès, ainsi que des affiches de spectacles. Le songe d'une nuit d'été, l'échange, 6 personnages en quête d'auteur. Le club théâtre de Saint-Exupéry avait toujours été élitiste, et je ne m'étais jamais senti à l'aise dans ses murs. Ce n'était pas demain la veille que l'on montrait ici une représentation de la cage aux folles ou de fleurs de cactus. Dans ses statuts, il était précisé que le club n'acceptait que 20 élèves. Je n'avais pas voulu en faire partie, même lorsque ma mère le co-dirigeait avec Zélie. À sa décharge, Annabelle avait fait son possible pour l'ouvrir à davantage d'élèves, ainsi qu'à une culture moins sclérosée. Mais les habitudes avaient la vie dure, et personne ne voulait véritablement que ce bastion du bon goût et de l'entre-soi se transforme en une annexe du Jamel Comedy Club. Tout à coup, une porte s'ouvrit derrière l'estrade, et Zélie apparut sur la scène. C'est un euphémisme de dire qu'elle ne me vit pas arriver d'un bon œil. « Pourquoi viens-tu traîner ici, Thomas ?» D'un bond, je la rejoignis sur le plancher surélevé. « Ton accueil me fait vraiment chaud au cœur. » Elle me regarda dans les yeux sans ciller. « Tu n'es plus chez toi ici, c'est fini ce temps-là. » Je ne me suis jamais senti chez moi nulle part, alors tu vas me tirer des larmes. Comme j'avais une très vague idée de ce que je cherchais, j'envoyai un premier hameçon au hasard. Tu fais toujours partie du conseil d'administration, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Répondit-elle en rangeant ses affaires dans un cartable en cuir. Si c'est le cas, tu dois savoir qui finance les travaux. J'imagine qu'on a dû procéder à une information des membres et à un vote. Elle me regarda avec un intérêt nouveau. Une première tranche est financée par un emprunt, m'apprit-elle. C'est cette partie des travaux qui a été votée lors du CERF. Et le reste? Elle haussa les épaules en fermant sa serviette. Le reste sera voté en temps voulu. Mais c'est vrai que je ne sais pas trop où la direction compte trouver cet argent. Un point pour moi. Sans aucun lien, une autre question traversa mon esprit. Tu te souviens de Jean-Christophe Graff? Bien sûr. C'était un bon professeur, admit-elle. Un être fragile, mais un type bien. Parfois, Zélie ne disait pas que des conneries. Tu sais pourquoi il s'est suicidé? Elle me renvoya dans les cordes. Tu crois encore qu'il y a une réponse unique et rationnelle qui expliquerait pourquoi les gens se donnent la mort? Avant de mourir, Jean-Christophe m'a écrit une lettre. Il y dévoilait qu'il avait aimé une femme, mais que cet amour n'était pas réciproque. Aimer sans être aimé en retour, c'est le lot de beaucoup de personnes. Sois sérieuse, s'il te plaît. Je suis très sérieuse, malheureusement. Tu étais au courant de cette histoire? Jean-Christophe m'en avait parlé, oui. Pour une raison que j'ignorais, Graff, mon mentor, la personne la plus subtile et la plus généreuse que j'ai jamais fréquentée, appréciait Zélie Bookmans. Cette femme, tu la connais? Oui. C'était qui? Tu m'emmerdes. C'est la deuxième fois que quelqu'un me dit ça aujourd'hui. Et ce n'est pas la dernière, à mon avis. Cette femme, c'était qui? Si Jean-Christophe ne te l'a pas dit, ce n'est pas à moi de le faire, soupira-t-elle. Ce n'était pas faux, et ça m'a fait de la peine. Mais j'en savais la raison. Il ne me l'a pas dit par pudeur. Eh bien, respecte cette pudeur. Je te donne 3 noms, et tu me dis si je me trompe, d'accord? On ne va pas jouer à ça. N'abîme pas la mémoire des morts. Mais je connaissais assez Zélie pour savoir qu'elle n'allait pas pouvoir résister à ce jeu malsain. Parce que pendant quelques secondes, la bibliothécaire aurait sur moi un petit pouvoir. Effectivement, Alors qu'elle enfilait sa veste en velours côtelé, elle se ravisa.
« Si tu devais proposer un nom, tu commencerais par qui ?»
Le premier était tout trouvé. « Ce n'était pas ma mère, n'est-ce pas ?»«
Non !»«
Où vas-tu chercher ces idées ?» Elle descendit les marches de l'estrade.
« C'était toi ?»
Elle ricana.
« J'aurais bien aimé, mais non !»
Elle traversa l'amphithéâtre jusqu'à la sortie.
« Tu claqueras la porte en partant, d'accord ?»
me lança-t-elle de loin.
Un sale sourire illuminait son visage. Il me restait une dernière chance.
« C'était Vinka ! Perdu ! Bye bye, Thomas !»
s'exclama-t-elle en quittant l'amphi. 6. J'étais seul sur l'estrade, devant un public fantôme. À côté du tableau noir, la porte était restée ouverte. Je me souvenais vaguement de cette pièce que l'on surnommait parfois la sacristie. Je poussai la porte pour constater que rien n'avait changé. C'était un local bas de plafond mais assez vaste, qui servait un peu à tout. Les coulisses des répétitions, l'endroit où étaient stockés les costumes et le matériel, celui où étaient conservées les archives du club théâtre. Au fond de la salle se trouvaient en effet des rayonnages métalliques qui contenaient des dossiers et des boîtes en carton. Chaque boîte était dévolue à une année. Je remontais dans le temps jusqu'à l'année 1992-1993. À l'intérieur, des flyers, des affiches et un gros cahier type Moleskine qui consignait les chiffres de la billetterie des différents spectacles, les bons de commande, l'entretien de l'amphithéâtre ainsi que la gestion du matériel. Tout était méthodiquement répertorié, non pas par l'écriture fine et serrée de ma mère, mais par celle beaucoup plus ample, ronde et déliée de Zélie Boekmans. Je pris le cahier et l'approchai de l'unique fenêtre pour parcourir le bordereau consacré au matériel. Rien ne me sauta aux yeux la première fois, mais une deuxième lecture m'alerta sur quelque chose. En date de l'inventaire de printemps, le 27 mars 1993, Zélie avait mentionné une perruque rousse introuvable. Je me fis l'avocat du diable. Cette information ne prouvait rien. Le matériel se détériorait très vite. Il n'était certainement pas rare qu'un costume ou un accessoire disparaisse. Il n'empêche, j'avais l'impression que cette découverte constituait un pas de plus vers la vérité. Mais une vérité amère et sombre, vers laquelle je me dirigeais à reculons. Je refermai la porte et quittai l'amphithéâtre pour regagner la bibliothèque. Je rassemblai mes affaires dans mon sac et retournai vers l'entrée, là où se trouvait la zone de prêt. Regard de biche, rire légèrement surjoué, cheveux rejetés ostensiblement en arrière. À 10 mètres devant moi, Pauline Delatour faisait son numéro de charme à 2 élèves de classe prépa. 2 grands types blonds et baraqués qui, d'après leur tenue, leurs propos et leur transpiration, revenaient d'une partie de tennis acharnée. « Merci pour votre aide », dis-je en lui restituant les numéros de courrier sud.
« Ravi d'avoir pu vous aider, Thomas.
Je peux garder le yearbook ?»
« D'accord, je m'arrangerai avec Zélie, mais pensez à me le renvoyer. »
Une dernière chose, il manquait un numéro parmi les journaux, celui d'octobre 1992.
« J'ai remarqué, oui. L'exemplaire n'était pas à sa place. J'ai cherché pour voir s'il n'était pas tombé derrière les étagères, mais je ne l'ai pas trouvé. »
Les 2 tennismen me regardaient l'œil mauvais. Ils avaient hâte que je me tire. Hâte que je leur rende l'attention sensuelle de Pauline. « Tant pis, » dis-je. Je m'étais déjà retourné lorsqu'elle me rattrapa par la manche.
« Attendez, le lycée a numérisé toutes les archives de Courrier Sud en 2012.
Et vous pouvez retrouver le numéro ?» Elle m'entraîna avec elle vers son bureau, tandis que, vexés d'être éclipsés, les 2 sportifs nous abandonnaient.
« Je vais même vous en faire une impression laser. »«
Génial, merci !» Elle lança l'impression qui dura moins d'une minute, puis agrafa les feuilles avec soin avant de me présenter le document. Mais alors que je tendais la main pour l'attraper, elle le retira brusquement.
« Ça mérite bien une invitation à dîner, non ?»
Et voilà que se dévoilait la faille de Pauline Delatour. Une séduction permanente et effrénée qui devait l'insécuriser et lui demander une énergie folle. « Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour qu'on vous invite à dîner. »«
Je vous laisse mon numéro de portable ?»«
Non, je veux juste le journal que vous avez eu la gentillesse d'imprimer. » Tout en continuant à sourire, Elle inscrivit son numéro sur la photocopie. « Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, Pauline ?» Elle répondit comme une évidence. « Je vous plais, vous me plaisez, c'est un début, non ?»« Ça ne marche pas comme ça. Ça fait des siècles que ça marche comme ça. » Je décidai de ne pas remettre une pièce dans la machine. Je tendis simplement la main et elle finit par capituler en me donnant l'exemplaire qu'elle avait annoté. Je crus m'en tirer à bon compte, mais elle ne résista pas à me gratifier d'une insulte. « Connard, va !» C'était ma fête aujourd'hui. J'attendis d'avoir regagné ma voiture pour feuilleter le journal. La page qui m'intéressait était celle du compte-rendu de la pièce de théâtre adaptée du parfum. Rédigée par les élèves, l'article mentionnait une représentation bouleversante marquée par l'intensité du jeu des deux comédiennes. Mais c'était surtout les photos de la soirée que je regardais. Sur la plus grande, on voyait Vinka et Fanny qui se faisaient face. Deux filles aux cheveux de feu, presque jumelles. Je songeais à Vertigo d'Hitchcock et au duo Madeleine Elster et Judy Barton, les deux faces d'une même femme. Sur scène, si Vinka était fidèle à elle-même, Fanny était métamorphosée. Je repensais à la conversation que j'avais eue avec elle en début d'après-midi. Un détail me revint en mémoire et je devinai qu'elle était loin de m'avoir tout dit.